Parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en croque-mort. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé MC Talk. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois au métier étonnant. Qui es-tu, Sabrina, et que fais-tu sur Terre?
Que fais-tu sur Terre? Alors, qui je suis? Moi, je m'appelle Sabrina Berenguier-Sali. J'ai 30 ans. Je vis du côté de Toulouse. Je suis maman d'une petite fille. Et je suis conseillère funéraire et maître de cérémonie.
D'accord. Est-ce que conseillère funéraire, maître de cérémonie, c'est quoi?
En fait, je travaille dans les pompes funèbres, donc je travaille avec la mort au quotidien. Conseillère funéraire, en fait, c'est la personne qui va accueillir les familles, les prendre en charge. Ça va être l'interlocuteur privilégié des familles, notamment pour tout ce qui est préparation d'obsèques, jusqu'au jour de la cérémonie.
Tu présentes comme croque-mort sur les réseaux. C'est quoi croque-mort versus conseillère funéraire? Est-ce que croque-mort, en fait, c'est le terme un peu marketing, tu vois, ou est-ce que c'est un vrai terme?
Non, croque-mort, en fait, à l'époque de la peste, quand quelqu'un mourait de la peste, on le mettait devant la maison et en fait, il y avait des personnes habilitées à venir chercher les corps. Donc, il est croqué avec une espèce de fourche et c'est comme ça qu'on dit croque-mort, en fait, tout simplement. Et donc, c'est le terme un peu vulgaire pour représenter notre métier, mais c'est assez drôle quand même comme mot. Je sais pas, j'aime bien.
Oui, joli, croque-mort. Je crois que sur Instagram, pas mal de gens ont fait des blagues. Pourquoi croquer les morts?
Comme sur TikTok, j'ai mis une croque-mort qui croque la vie, tu vois, j'essaie de jouer avec les trucs.
Non, c'est vrai que croque-mort, je trouve ça presque joli comme terme. Mais pourquoi il prenait la fourche pour le mettre sur les morts, tu sais? C'est quoi l'intérêt?
Et parce qu'en fait, la peste, c'était contagieux pour éviter d'être contaminé par le malade, le défunt, il les prenait à distance, quoi.
Ah, ok. Ouais, c'était un peu le masque de l'époque, quoi. C'est la fourche.
Ouais, exactement.
Ok. Et qu'est-ce que tu fais exactement Donc, tu accompagnes les familles. C'est quoi exactement accompagner les familles? C'est quoi les différentes étapes? C'est où que tu interviens?
Ouais, alors en fait, quand un décès survient, on m'appelle. Je leur réponds et je réponds à leur première question qui est « qu'est-ce qu'on fait ?» Donc en fait, je leur explique qu'il faut qu'on se rencontre. On va ensuite ensemble, du coup, se rencontrer et faire tout ce qui est démarche administrative parce que bon, quand on meurt, évidemment, il y a énormément de paperasse à remplir. Donc, on va faire énormément de démarches administratives, de l'accompagnement au deuil, beaucoup. On va préparer tout ce qui est cérémonie religieuse, cérémonie civile. On va faire des choix, notamment celui du cercueil, de l'urne, etc. Et ensuite, mon rôle, c'est vraiment aussi d'aller chercher les corps sur les lieux de décès, de faire les démarches administratives dans les administrations différentes, les consulats, les mairies, etc. Et ensuite, mes familles, je vais les accompagner jusqu'au jour de la cérémonie. C'est pour ça que je dis que je suis maître de cérémonie, c'est-à-dire que le jour de la cérémonie, c'est moi qui gère mes convois et qui serai là pour répondre à toutes les attentes de la famille et surtout pour réaliser la cérémonie officielle.
C'est affreux, mais on dirait que c'est genre un wedding planner un peu. Le wedding planner.
C'est exactement ça, mais souvent je dis je suis le wedding planner de la mort. Mais en fait, ça s'appelle un peu funeral planner.
Ouais, c'est ça, funeral planner. T'es là du début à la fin, au final, vraiment, t'es la première interlocutrice et aussi la dernière dans tout ce processus d'enterrement ou d'incinération, etc.
C'est exactement ça.
Je vous coupe rapidement pour vous donner un conseil pour éviter les mauvais sorts. Premièrement, deux conseils. Premièrement, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça prend quelques secondes et ça évite la magie noire. Deuxièmement, partagez l'épisode à un ou une amie. Je suis sûr que ça vous fera plaisir et cette personne découvrira un nouveau métier. Finalement, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du MC Talks, le message du dimanche, dont le lien est en description de l'épisode. J'envoie des trucs très cool par courriel, le dimanche, parfois. Alors, bonne écoute.
Et justement, tu fais donc aussi, c'est enterrement et incinération ou c'est juste l'un, pas l'autre? Il y a des règles?
Alors, du coup, en fait, en France, on ne dit pas incinération. Déjà, on dit crémation. L'incinération,
ah non, c'est crémation, pardon.
Oui. L'incinération, c'est pour les déchets.
Pardon.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais au moins, tu vois, c'est dit, tu vois, on le sait.
Oui, c'est bien. Je suis content d'avoir fait l'erreur.
On dit une crémation et on choisit ça ensemble. Ouais, je leur demande qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez plutôt une inhumation, plutôt une crémation? Et puis moi, je les accompagne dans toutes les étapes. De toute façon, que ce soit à l'inhumation, que ce soit à la crémation, je suis quand même là et j'organise.
Et c'est quoi? C'est qui ton employeur? C'est des pompes funèbres?
Exactement. Moi, je suis employée dans une entreprise de pompes funèbres.
D'accord. Donc, c'est quand tu contactes les pompes funèbres, comment ça marche en tant que client, devrais-je dire? En tant que client, comment ça se passe? C'est une option en plus? Ça fait partie de l'expérience?
Non, en fait, c'est un tout, quoi. Quand tu contactes des pompes funèbres, ben, tu tombes sur les employés, quoi, ou les responsables, et tu les fais venir directement à la chambre funéraire, et voilà, quoi, on s'occupe de tout. Les entreprises de pompes funèbres sont habilitées à tout faire, en fait. Elles font l'accompagnement, elles font les travaux de cimetière, elles font les montages de cercueils, elles font les soins de thanatopraxie, donc les soins de conservation sur les corps, les embaumements, comme on dit plutôt au Canada, par exemple. Les entreprises de pompes funèbres font tout ce qui tourne autour de la mort. Elles font même de la vente d'articles funéraires, de fleurs naturelles, artificielles, voilà.
Il y a un ami qui me disait après c'est la mise en bière, je pense que ça s'appelle. Genre presque, il reconnaissait pas le corps du membre de sa famille. Il disait mais pourquoi alors c'est quoi déjà la mise en bière avant peut-être de continuer sur ma question d'après.
La mise en bière, en fait, c'est la mise du défunt dans son cercueil. En fait, c'est vraiment une étape clé dans la préparation aux obsèques. La mise en bière, c'est l'étape où le défunt va aller dans son cercueil. Exactement.
D'accord. Et pourquoi mise en bière?
Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Bon, je ne saurais pas te dire.
Pour croque-mort, t'as réussi pour mise en bière.
Là, franchement, ma culture s'arrête là, quoi.
Aucun problème. Mais donc, après cette mise en bière, je pense qu'il y a une partie maquillage, etc. Cette personne me disait, mais pourquoi les corps sont aussi peu reconnaissables?
Parce que j'ai envie de te dire, la nature reprend ses droits et malheureusement, il y a des corps qui se décomposent plus vite que d'autres. Quand la mort survient, un corps peut changer à une vitesse folle, plus ou moins folle. Ça dépend des personnes, ça dépend s'il y a eu des traitements médicaux. Souvent, les personnes atteintes de cancer qui ont subi des chimiothérapies, etc., ont les corps qui changent que d'autres parce qu'ils ont été... infectés par la maladie et par tous les produits chimiques qui ont été ingérés. Donc des fois, malheureusement, même avec des soins de conservation, même avec du make-up, de la coiffure et tout ça, de la mise en valeur, on va dire, du défunt, c'est compliqué de le reconnaître parce que la nature reprend ses droits.
Je comprends, ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que ça doit être un sacré travail. Ouais, je me demandais, est-ce que toi, en voyant tout ça, est-ce que ton rapport à la mort a évolué ou pas?
À la mort, parce que moi, il faut que je puisse voir pour croire aussi. Donc déjà, toute petite, j'allais voir des défunts, voilà.
Quand tu étais petite, t'allais voir les défunts?
Ouais, j'ai perdu des proches petites et en fait, je demandais toujours à aller les voir.
Okay.
Voilà, il fallait que je voie pour croire. Mm-hmm. Et j'ai toujours été comme ça. Et ça ne me faisait pas spécialement peur. Après, c'est vrai que quand moi, j'ai été percutée par la mort un peu plus cash, quoi, quand j'ai perdu mon papa, par exemple, il y a 4 ans, j'ai vraiment commencé à changer. De voir ma vision sur la vie, en fait. Ma vision sur la vie a totalement changé et sur la mort aussi. Et puis en rentrant dans ce métier, on ouvre beaucoup les yeux, en fait. On ouvre énormément les yeux.
Quand tu dis que ta vision sur la mort a changé, c'est-à-dire qu'avant, tu en avais peur, et après ce passage de ta vie, tu as un peu relativisé sur la mort, c'est ça que tu veux dire?
Disons que, en fait, avant, j'en avais peur. Bon, j'en ai toujours peur. Hein. Je flippe ma race, je ne veux pas mourir, hein, je te le dis de suite. Moi, non, non, merci. Mais disons que j'ai. Disons que ça m'a permis de me rendre compte à quel point la vie était courte, à quel point il était important de profiter de chaque instant. C'est plutôt ça qui a changé en fait. La mort m'a permis de me rendre compte de l'importance de la vie.
D'accord. Et là,
Ouais.
quand tu as. Donc, tu disais après, donc, attends, du coup, on va aussi. Il y a une autre question qui sous-tend, c'est comment tu t'es retrouvé à faire ce métier? Parce que c'est quand même un métier atypique. Tu t'es retrouvé, j'imagine, dans ce métier suite au décès de ton papa.
Exactement. Après avoir perdu mon papa, ça a été un petit peu la remise en question personnelle, professionnelle. Et c'est vrai que je prenais plus forcément plaisir à ce que je faisais tous les jours. Je me levais et je me disais, putain, aujourd'hui, tu vas être inutile encore une fois, quoi.
Tu faisais quoi comme
Et
métier?
moi, j'étais dans l'hôtellerie-restauration.
Où ça exactement? Réception?
Moi, j'étais barista, exactement.
Ah oui, ok, vraiment, un gros changement.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi et je me suis dit, bon, ben, il faut faire quelque chose là. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir côtoyé un petit peu les pompes funèbres avec le décès de mon papa, je me suis rendu compte qu'il y avait un sacré métier là derrière. Donc, j'ai voulu aller voir un petit peu de plus près. Et puis, j'ai pas été déçue du voyage parce que du coup, maintenant, ça fait 2 ans que je suis diplômée et que je suis dans le milieu. Et chaque jour, je me réveille, chaque jour, je me sens utile, et chaque jour, je me sens épanouie et heureuse.
Tu dis que quand tu as commencé donc ce métier, ton rapport à la mort a encore plus évolué. Et
Ouais.
qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ton rapport à la mort aujourd'hui?
J'essaie de positiver, en fait, au maximum. C'est vrai que la mort, c'est très tabou, mais en fait, la mort fait partie de la vie, et en fait, j'ai pris conscience de ça. Et c'est important d'en parler, c'est important de l'inclure à notre quotidien parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, on peut pas aller à l'encontre en fait. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Et puis il n'y a pas que du négatif dans la mort au final parce qu'il y a certaines familles qui le voient comme un nouveau départ, tu en as d'autres qui vont être plus tristes, tu en as d'autres qui vont être plus dans la fête, ça dépend aussi des cultures, mais on voit de tout. Et puis il y a des moments très très drôles, faut pas croire.
Il y a eu quoi comme moment drôle?
Ah, plein de moments très aux familles qui dansent du zouk au crématorium, par exemple, juste avant le départ à la flamme. Enfin voilà, c'est. Ou des gens qui font des blagues. Enfin voilà, c'est.
Pense qu'il faudrait que ma mère écoute cet épisode parce qu'elle me dit, j'étais avec au téléphone avec elle hier, elle me dit qu'elle voulait aussi, à son décès, elle voulait qu'il y ait des danseurs qui porte son cercueil, genre des danseurs, et qui genre de la musique ouais zouk ou de la musique rock ou de la musique dansante, et qu'on danse en même temps qu'on porte le cercueil. Enfin bref, elle veut un peu une grosse ambiance à son décès.
Mais c'est possible. Franchement, moi, je prendrais plaisir à organiser son intervention.
J'y penserai, je me dirais, voilà, si elle meurt, j'ai déjà le plan, choisir mon
Ouais,
frère et ma sœur. Et toi, donc, tu étais dans cet hôtel, tu travaillais en tant que barista,
c'est ça.
il y a eu le décès de ton père, et là, tu t'es remis en question, tu t'es dit que tu voulais être utile. Donc là, ouais, tu dis que tu t'es intéressé un peu plus dès que tu t'es allé voir. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour t'y
Ouais,
intéresser
en
plus?
fait, j'ai contacté des personnes qui faisaient ce métier que je connaissais. Et pour leur poser des questions déjà, j'ai commencé petit à petit. Puis après, je me suis renseignée un petit peu sur Internet, les différentes formations, comment on accède à ce milieu, quels sont les salaires, etc. Et puis, j'ai poussé le truc et je suis allée dans une entreprise de pompes funèbres et j'ai demandé un stage. Et j'ai fait 15 jours de stage, du coup, pour découvrir vraiment le métier. Au bout de 2 jours, déjà, je savais que c'était ça que je voulais faire. C'était
C'est
assez.
vraiment le fait de te sentir utile qui t'est dit, c'est vraiment ça que je veux faire.
Ouais. Ouais. C'est, je sais pas, c'est, il y a eu un truc qui a fait que je me suis dit, mais c'est fait pour moi en fait. C'est le métier qui est fait pour moi. C'est fou de se dire que ben, la mort, au final, c'est un métier qui touche à la mort et c'est, je me dis, c'est fait pour moi, c'est bizarre. Mais non, en fait, l'accompagnement des gens, la gratitude aussi, parce que quand les familles viennent te voir à la fin des cérémonies en te disant merci pour tout. Mais quel bonheur! Et puis ils nous font confiance et on crée des liens. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez sociable et tout ça. Et c'est vrai que de pouvoir discuter avec les gens, d'être là pour eux, c'est une part de générosité et ça fait partie de moi en fait. Donc c'est un tout qui faisait que ben, je me suis dit c'était le métier parfait pour moi, quoi. Et puis ça bouge. Moi, j'aime pas rester que derrière un bureau. Il faut que ça bouge, il faut que ça change tous les jours, il faut que ce soit. Voilà quoi, il faut que ça bouge. Et du coup, c'est vrai que dans ce métier, j'ai découvert ça.
Et tu dis que tu rigoles beaucoup justement de la mort, que tu, enfin pas rigoler, mais que tu la prends au positif, que tu es avec les familles, que tu es là pour les accompagner. C'est que moi aussi, quand je parle de, des décès que j'ai vécu dans ma famille, je le dis avec beaucoup de rigolade. Ça me touche profondément, mais quand j'en parle aux gens,
Ouais.
je fais des blagues, j'en rigole. Je suis pas très religieux ou quoi, donc moi, je rigole beaucoup autour de ce sujet-là. Surtout pour moi, à la fin, bah, le corps, c'est juste la. Tu vois, c'est le coquillage, mais bon. Le corps en soi ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était la personne et son corps, bon, bah, il va n'importe où. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, parfois, je peux les presque les choquer ou les blesser. Alors, je parle de ma vie à moi, parce que les gens ont tendance à avoir quand même peur de la mort, ou pas peur de la mort, mais enfin, peur de la mort, mais tu vois, y a une distance. C'est la mort. Faut pas trop rigoler de ça. On reste sérieux quand on parle de ça. Donc, je
C'est
me
le
dis,
tabou, en
toi,
fait. C'est le
c'est
tabou.
tabou, ouais, c'est un peu tabou. Donc, même quand on parle de soi, c'est quand même tabou pour les autres. Et je me dis que toi, avec cette vision-là de la mort, avec cet esprit, avec ce côté positif, puis là, on ne verra pas dans le podcast, mais tu es quelqu'un de souriant, d'enjoué. Je me dis, est-ce que ça peut pas blesser les gens, ou est-ce que tu as pas eu ce problème, justement, ou de gens qui disaient, non, mais c'est sérieux, là, on peut pas, je peux pas juste.
Non, non, non. Au contraire. Au contraire, parce qu'en fait, quand une famille arrive, que le décès est survenu, bon, ok, ils ont perdu un être cher, ils sont tristes, ils sont dans la peine, mais c'est leur peine, c'est pas la tienne. Toi, ton objectif, c'est de pouvoir leur apporter un petit peu de compréhension, et puis, ne serait-ce que de les accueillir avec un petit sourire. Bon, bien sûr, je me tape pas des barres de rire devant la famille, mais ne serait-ce que de pouvoir leur dire, allez, ça va aller, je suis là, je vais vous aider, je vais vous guider, ne vous inquiétez pas, les rassurer, leur apporter cette douceur-là, et ils sont de suite, ils se sentent en confiance, et voilà quoi. Après, c'est sûr que devant les familles, je vais pas rigoler de la mort. Mais c'est vrai qu'après, entre collègues, on en rigole beaucoup, mais parce que c'est un moyen d'extérioriser aussi, parce qu'on vit des choses pas simples, on voit des choses pas super jolies tous les jours, et c'est vrai que le rire, c'est un moyen d'extérioriser énormément, donc on essaie de sortir ce qu'il y a à sortir et de dédramatiser un peu les situations, parce que sinon, on passerait notre temps à pleurer au final.
Ouais, je suis d'accord, je suis plutôt du même avis. Je rigole beaucoup de ce sujet-là, ou en tout cas, je le prends à la cool comme sujet. Et tu dis que justement que tu vois des trucs pas cool des fois. Ça t'a jamais choqué, les trucs que tu vois, ou tu dis que tu es là, enfin, tu es sur place pour récupérer le corps. Donc, j'imagine que tu t'as vu peut-être des blessures ou des choses qui sont vraiment pas belles à voir. Est-ce que ça t'a pas eu beaucoup de mal au début quand même à voir ça? Ou non, c'était assez naturel dès le départ?
Alors en fait, la première fois que j'ai vu quelque chose d'assez horrible, bah, c'était mon 4e jour de stage. Donc je leur avais dit, écoutez, quitte à ce que je me paye ma formation, faites-moi tout voir. Comme ça, au moins, je suis sûre de voir si je suis faite pour le métier ou pas, si je suis capable de tout encaisser. Et en fait, on m'a amenée sur une réquisition judiciaire. Donc là, c'est quand il y a un décès, meurtre, suicide ou décès sur la voie publique, pardon, comme les accidents de la route, etc. Donc, on ne savait pas trop où on allait. Je savais juste que c'était un suicide par balle, mais voilà. Et j'ai dit, bon, bah, écoutez, on y va, c'est parti. On y va, quitte à tout voir, bah, je vais tout voir. Et puis, c'est vrai que là, j'étais assez surprise de la scène que j'ai pu observer, parce que là, c'était un monsieur qui s'était suicidé, qui s'était fait littéralement exploser la tête.
Ah oui.
Donc, quand on arrive sur les lieux, qu'on voit ça, ça fait 4 jours qu'on est dans le funéraire, je me dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un gag? Est-ce que c'est mon bizutage? ça paraît irréel, en fait. Et puis après, on se dit, bon, ok, c'est irréel, c'est pas possible, c'est pas réel. Bon, ok, t'es là. Et puis tu te dis, non, c'est la vérité, c'est bien réel. On y est, il y a vraiment quelqu'un qui était mal au point d'en arriver là, quoi. Et là, tu te dis, c'est triste. Mais donc, des choses comme ça, malheureusement, on en voit. Parce que les pompes funèbres, il ne faut pas croire, mais en France, notamment, on est les seuls habilités à faire du transport de corps s'il est déclaré mort. Même les pompiers et les ambulances n'ont plus le droit de transporter des défunts. Donc, il y a un accident de la route, que le décès a été certifié par un médecin, eh bien, on appelle une entreprise de pompes funèbres qui va venir récupérer le corps sur la route, par exemple. Pareil pour un suicide, quelqu'un qui vient de se suicider, qui s'est pendu, un pendu par exemple, ben, les pompes funèbres sont là pour le dépendre, voilà, pour récupérer le corps. Et donc, on voit de tout.
Je pense qu'on s'y habitue, j'imagine, au bout d'un moment.
Je pense qu'on ne s'habitue jamais à ce genre de situation, honnêtement. On reste juste professionnel. On essaie de faire abstraction le temps de faire les gestes, et après on en parle, parce que c'est vraiment des cas particuliers. Moi, je sais que avec mes collègues, on en discute beaucoup, et c'est important de parler entre nous, notamment souvent aussi pour les enfants, quand on a des décès d'enfants, c'est toujours difficile. Donc sur le moment, on agit avec professionnalisme, on prend en charge le dossier. Et ensuite, quand on se retrouve seul ou entre nous, ben là, c'est le moment où bien souvent, bon, moi, en tant que maman, ben, je craque. Et puis j'en parle, quoi. On en parle, parce que on essaie de pas trop le faire devant les familles, mais bon, après, voilà. Moi, je me suis jamais interdit de rien, et j'ai déjà pleuré avec des familles. Hein. C'est ce qui fait ben, notre force aussi. On est des humains, et il faut pas l'oublier. Hein.
Ouais, ça montre aussi de l'empathie pour les familles.
Ce genre de situation, quoi.
Et donc, juste pour comprendre vraiment tout ce que tu fais dans la... Est-ce que tu as plusieurs décès à gérer en même temps dans la semaine, ou c'est à chaque fois un décès et puis un autre décès, ou est-ce que c'est plein de décès en même temps et tu dois gérer plusieurs projets en même temps?
Tout dépend des périodes. Ça peut être plusieurs décès par jour, ça peut être plusieurs décès par semaine. Ça peut être des fois des semaines où il n'y en a pas du tout. Ça dépend vraiment des périodes, des saisons aussi.
Est-ce que justement, il y a des saisons qui sont plus décès que d'autres?
Là, on arrive dans la saison...
compliquée.
Dans la saison compliquée, parce que c'est les fêtes de fin d'année. On a énormément de suicides en général avec les délaissés. Moi, je les appelle comme ça. Ça, les délaissés, les gens qui se sentent seuls. Il y a ça, il y a beaucoup... Enfin, les gens sont beaucoup plus énervés parce que, bon, il y a tout ce qui est impôts et tout ça. La fatigue des fins d'année. Donc, le système immunitaire qui chute, le changement de saison, c'est tout qui est compliqué. Il y a énormément de décès durant cette période-là, à partir d'octobre jusqu'à février, mars. C'est une période où il y a beaucoup plus de décès en général.
D'accord. Et donc, tu disais que tu as commencé par un stage. Donc, déjà, c'est étonnant ça, parce que c'était pas vraiment un stage dans le sens où tu n'étais pas à l'école. C'est de toi-même qui as dit, je veux découvrir le métier. Est-ce que je peux le faire avec vous? Et ils ont accepté.
Oui, exactement. Bon, après, pour avoir des papiers en toute légalité pour faire des stages, pour être couverte et tout ça, je suis allée chez Pôle emploi pour leur demander des conventions de stage. Mais moi, il faut savoir que quand j'ai fait les démarches de trouver un stage, j'étais encore salariée de mon entreprise. Et je lui ai demandé de me laisser la liberté d'aller faire un stage avant de quitter l'entreprise pour être sûre que le métier me plaise, etc. Et puis, c'est surtout que c'est une formation qui m'a coûté 3 000 euros. Et je voulais être sûre de vouloir vraiment faire ce métier avant de subventionner ma formation, quoi.
Ouais, ça c'est un bon conseil, je pense. D'ailleurs, je pense que tu l'as dit sur TikTok ou Instagram, je sais pas,
oui.
Où tu disais
Faites des stages,
surtout
c'est
dans ce
super
métier-là, en
important.
fait. Il y a des métiers encore, bon, on peut ne pas être surpris, mais là c'est un métier où c'est dur, c'est très dur. Enfin, moi, je pourrais jamais faire ça, je pense.
C'est un métier qui est très particulier, c'est un métier qui est très physique, très intense émotionnellement, intense physiquement aussi. Il faut penser à beaucoup de choses, il y a beaucoup de lois, c'est un métier qui est très très difficile en tout et pour tout. Et c'est pour ça que je dis toujours faites des stages, parce que quand on en parle comme ça, ouais, c'est tout mignon, elle accompagne des familles, elle organise des enterrements, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est vraiment un métier très, très compliqué au quotidien, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration, beaucoup de temps aussi, parce qu'on passe énormément de temps au travail, on est très disponible pour les familles. Et ça, il ne faut jamais oublier de le dire. Attention,
Justement,
faites
ça ne
des...
bouffe pas un peu la vie perso, parce que c'est des gens qui peuvent t'appeler à n'importe quelle heure ou qui peuvent, tu sais, ils sont pas bien. Donc, tout moment, à 4 h du matin, t'es pas bien, je sais pas, t'as personne. J'imagine une famille où il y a quasiment personne dans la famille, bah, t'es la première interlocutrice, bam, on t'appelle toi. Comment tu le vis ça?
Ben, ça arrive et je le gère, ben je l'inclus à ma vie en fait, parce que mon travail fait partie de ma vie et j'aime tellement ce que je fais que je ne me prive pas de répondre aux familles, même quand c'est le week-end, que je suis en repos, s'ils m'envoient un SMS ou autre, ben je réponds parce que ils ont besoin que je sois là. Et si c'était dans le sens contraire, si c'était moi qui avais besoin d'eux, ben j'aimerais qu'on me réponde aussi, donc... J'agis avec eux comme j'aimerais qu'on agisse avec moi, et puis voilà.
Les questions bêtes quand on annonce le décès d'un proche à quelqu'un, en général la personne elle dit mais je sais pas quoi dire, y a rien à dire, c'est ultra gênant. Toi tu dis quoi?
Moi, en tant que conseiller funéraire ou maître de cérémonie, quand une famille arrive à l'improviste, que je ne suis pas prévenue, et qu'on me dit, voilà, je viens parce que j'ai vu que vous étiez une entreprise pour funèbre, je viens de perdre maman. Ah, mes sincères condoléances, ben écoutez, je vais vous accueillir, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, on va discuter ensemble. Et souvent, je leur propose un verre d'eau, un café, quelque chose pour avoir un peu ce premier contact sympathique pour les mettre en confiance aussi, quoi. Et puis, c'est surtout que souvent, ils arrivent de cliniques ou des hôpitaux ou des EHPAD, le décès vient de survenir, ils sont encore un peu sous le choc, un peu fatigués. Et puis, des fois, un petit café, un petit verre d'eau, une petite attention, ça leur réchauffe le cœur et ça leur permet de souffler 5 minutes avant d'entamer toutes les démarches qui sont très longues.
Alors, avant l'épisode, je t'ai demandé de d'écrire deux anecdotes de ta vie professionnelle, deux anecdotes qui sont vraies. Et deux anecdotes qui sont fausses. Okay? Alors, je viens de capter en te disant que je crois que c'est sur YouTube, comment il s'appelle, ces deux youtubeurs qui jouent au jeu des anecdotes, là, je ne sais plus. Je viens de capter que c'est exactement la même idée que la leur. Mais
OK.
l'idée, c'est tout simplement que tu vas me dire deux anecdotes, donc deux sur les quatre, tu ne vas pas toutes me les dire. Tu vas me donner deux anecdotes, il faut que je devine si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce qu'on peut commencer par la première anecdote?
Alors, la première anecdote, c'est un jour, j'ai reçu une mamie pour un contrat obsèque parce qu'elle savait qu'elle était mourante. Et en fait, si tu veux, elle nous a fait une demande bien particulière. C'est qu'elle voulait partir avec ses sextoys.
C'est fini l'anecdote?
Elle voulait partir avec ses sextoys et le jour où le décès est survenu, on a mis les sextoys dans le cercueil. Bon, évidemment, on a dû enlever les piles parce que voilà, mais parce qu'on n'a pas le droit de mettre tout ce qui est appareil électronique, etc., dans les cercueils. Mais madame ne voulait pas s'ennuyer en fait en arrivant là-haut, donc elle est partie avec tous ses sextoys.
Incroyable. Alors attends, tu me dis que la mamie est venue avant. Elle t'a demandé avant.
Ouais, c'était sur son contrat obsèque, c'était sa volonté.
Donc mais elle savait qu'elle allait mourir, elle était malade ou
Oui, elle
Ah
était
ok, donc ça a
malade.
du sens. Ça a du... Si elle était malade, ça a du sens que.
Ouais.
C'est quoi, moi je connais des gens vraiment très proches qui feraient ça. Qui seraient ok pour faire ça et qui trouveraient ça très fun. Donc moi j'ai envie de dire que c'est une vraie anecdote.
Ouais, c'est vrai. C'est une vraie anecdote. C'est une
Franchement,
vraie,
je la
vraie,
ferai
vraie.
écouter à cette personne, je pense que ça va la faire beaucoup rire.
C'est terrible, mais c'est une vraie anecdote et c'était génial à faire. Et puis elle avait une panoplie, je te raconte pas.
Ah
Elle risque pas de s'ennuyer, mamie, je vous le dis, moi.
ouais. Et tu dis qu'il n'y a pas le droit à des appareils électroniques dans le cercueil.
Ouais.
C'est quoi la raison? J'ai pas bien compris.
Ah, ben, déjà, ça pollue.
Ah oui, ok. Ouais.
Et quand il y a une crémation, ça explose dans le four, tout ce qui est pile, tout ce qui est appareil électronique, ça explose à la chaleur.
Ah ok, donc, d'accord. Ça, pour une crémation, effectivement. Il y a d'autres règles pour la crémation, des règles de choses que tu ne peux pas emporter, ou c'est juste les trucs électroniques?
Vraiment tout ce qui est électronique et tout ce qui est bouteille avec des liquides, et etc. Quoi.
Ouais. Si tu mets une bouteille de vodka enflammable à l'intérieur.
Bon, on va éviter.
Tu veux partir avec ta bouteille, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Ok. Bah, j'aime bien ce jeu, tu vois. Ça permet en plus de poser des questions à cette anecdote. Donc là, il reste trois anecdotes. Il en reste deux fausses, une vraie. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux la prochaine. Mais tu peux choisir soit une fausse, soit une vraie. Je ne le saurais pas. C'est pour ça que je t'ai demandé d'en préparer quatre. Donc, quelle est la deuxième anecdote?
Justement, j'étais au crématorium il n'y a pas longtemps. Et j'ai une famille qui a décidé de mettre la chenille. C'est la chenille qui redémarre. Et en fait, ils sont levés, ils ont tous fait la chenille autour du cercueil dans le crématorium, quoi. Voilà. C'est la petite anecdote.
Alors ça ou Patrick Sébastien tourner les serviettes.
Ouais, c'est un peu le même délire, quoi.
Moi, j'ai connu quelqu'un qui voulait allumer le feu pendant la crémation.
Oh, ben ça, c'est un basique pour les crémations, ça. C'est souvent.
Ça a déjà été fait ?
Mais bien sûr.
Incroyable.
Mais bien sûr.
Mais ça plaisait pas à beaucoup de gens, cette idée, quand même. Donc, la chenille. Alors, je me demande pourquoi on ferait la chenille. Parce que allumer le feu, il y a une blague derrière, donc ça permet de positiver, de rigoler, de prendre. La chenille, en plus, c'est petit, il n'y a pas beaucoup d'espace, il y avait beaucoup de monde. Il y avait combien de personnes qui faisaient la chenille?
Je sais pas, c'était une cinquantaine au moins. C'est...
Non, je ne crois pas, c'est une cinquantaine de personnes qui font la chenille quand même. C'est faux.
Non, c'est faux. Mais par contre, c'est déjà arrivé. Mais pas à moi. Mais je sais qu'à des confrères, c'est déjà arrivé.
Waouh.
Ouais.
C'est intense quand même faire la chenille.
Non,
mais juste en termes de logistique, etc. Après, pourquoi pas? Parce que tu sais, il y a un passage où tu te mets à côté du cercueil, les personnes se recueillent.
Oui.
Tu pourrais faire la chenille.
Après, moi, ça m'est eu arrivé des familles qui dansent, qui se lèvent et qui dansent le zouk dans le crématorium. C'est déjà arrivé. C'est pour ça que la chenille, bon, là, c'est faux parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais je sais que c'est eu arrivé à des confrères.
Est-ce qu'il y a des religions qui font que... justement, il faut positiver un peu comme... je sais pas, c'est El Día de la Muerte ou je sais pas comment on appelle ça au Mexique, tu sais, où c'est vraiment... c'est coco, quoi. C'est
ouais,
novembre,
c'est la fête.
Est-ce que c'est justement ces gens qui ont fait le zouk ou qui font un peu des trucs marrants? Est-ce
là,
que c'est lié à la religion ou c'est juste des gens qui sont vraiment qui veulent?
Non, ça fait partie de la culture, surtout. De la culture, pas forcément de la religion, mais de la culture du pays duquel ils sont. Je sais que dans la culture noire américaine, notamment, on a beaucoup affaire à ce genre de cérémonie où ça danse beaucoup, c'est festif. Mmh. La culture africaine aussi. En général, la mort, c'est un événement festif. Il y a des cultures comme ça où ça danse, ça chante, ça... C'est une fête, quoi, en fait.
C'est fou. Là, on a le 1er novembre qui arrive, Halloween. Parce que...
ouais,
c'est le 1er novembre, surtout la fête des morts, c'est ça, je crois. Halloween, c'est juste ça.
Exactement.
Est-ce que toi, tu le fêtes ou c'est quoi pour toi? C'est important ce jour ou pas du tout?
Non, parce qu'en fait, c'est vraiment le jour où les gens vont aller déposer des fleurs au cimetière. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas un jour en particulier pour aller me recueillir, quoi.
Mm-hmm.
C'est comme la Saint-Valentin, un petit peu, quoi. C'est,
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et à un moment, alors, j'ai regardé tous tes TikTok hier, tu sais, je regardais tous les uns après les autres pour voir ce que tu disais. Et il y a un moment qui m'a marqué, je l'ai noté. Ah oui, c'est que tu dis, je pense qu'il y a une musique derrière ou quoi, et tu dis être une femme dans le funéraire. Il y a un truc avec le fait d'être femme dans le funéraire. J'ai l'impression que, de ce que je comprends du TikTok, c'est que c'est dur d'être une femme dans le funéraire. Pourquoi c'est dur? Et dis-moi un peu, c'est quoi la place de la femme dans le funéraire actuellement?
Alors, en fait, ce qui est compliqué avec les femmes dans le funéraire, c'est que les patrons partent du principe qu'elles sont moins polyvalentes qu'un homme. Que les hommes sont plus polyvalents. Les hommes, légalement, ont le droit de porter plus de poids qu'une femme aussi. Donc c'est surtout tout ça qui pêche. Puis dans le funéraire, à l'époque, c'était principalement des hommes qui travaillaient. Donc il y a beaucoup de métiers comme ça, ou même dans l'armée, à l'époque, c'était que des hommes. Et maintenant, on voit de plus en plus de femmes. Mais dans les mœurs, dans les mentalités des gens, du coup, c'est compliqué. Ça met du temps à se mettre en place. Et le funéraire, c'est un petit peu pareil. On part du principe que la femme, ben, c'est un petit peu le cliché de la femme. Elle est censée rester à la maison, s'occuper des enfants, du linge, de ci, de là, machin, du repas. Mais non, en fait, on est en 2022. On est des femmes indépendantes et on peut faire aussi bien qu'un homme, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est compliqué pour les femmes dans ce milieu, parce que c'est très machiste, en fait. C'est très machiste. Les hommes ont du mal à recevoir des ordres des femmes, parce que souvent, quand moi, en tant que maître de cérémonie, je gère mes convois, mais je gère aussi les porteurs, etc., par exemple. Donc, même si on est une équipe, qu'on travaille tous ensemble, c'est quand même moi qui gère le truc et qui prend la responsabilité de la cérémonie. Donc, il y en a certains qui ont du mal avec ça. Ils ont beaucoup de mal avec ça encore. Hein. Et puis, c'est vrai que quand on est en cérémonie et qu'on voit une femme gérer tout ça, on se dit, mais oh là là, une femme qui va faire ça, et vous êtes sûre? Ou des fois, des familles
pour
qui
gérer
disent,
la cérémonie?
Ouais, 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 ouais. C'est fou. Et puis, même des fois, pour les...
Ouais, pardon.
Pour les transports de corps, moi j'ai des familles qui me disent, mais c'est vous qui allez chercher le corps? Ben oui. Mais vous faites ça, enfin vous pouvez? Ben oui.
Bon. C'est marrant ce que tu me dis de ton métier depuis tout à l'heure. J'ai plus tendance à y voir une femme qu'un homme, ce qui est une partie, enfin une énorme partie empathique. Donc, du coup, je verrais plus une femme faire ça qu'un homme, parce que les femmes vont peut-être avoir plus cette empathie pour écouter les proches que l'homme. C'est pour ça que ça m'étonne que tu me dises que les gens imaginent ça comme un métier d'homme. Et c'est que historiquement, si tu me dis que c'est plus les hommes qui font ça,
bah, c'est ça. Mais ouais, historiquement, on voit plus d'hommes. On a toujours vu des hommes dans ce métier-là. Donc c'est pour ça que voir une femme, bah, ça surprend un peu toujours, quoi. Puis c'est un milieu qui a tout le temps été masculin principalement. Donc c'est très macho, quoi. Nous, on est trop fort, nous, on peut tout faire, vous les femmes, vous n'êtes pas capables. Non,
exactement.
Non, mais tu rêves. Mais tu rêves. Mais tu rêves. Donc, non, c'est vrai que ça surprend, mais bon, après, c'est vrai que nous, les femmes, je ne dis pas que les hommes n'ont pas ça, hein, mais on a ce côté maternel et ce côté plus délicat, on va dire. Et ça fait du bien aux familles, en fait.
Il y a déjà des gens qui. Nouveaux employés qui sont venus travailler avec toi et au bout d'une semaine, ils se sont dit « Non, mais c'est pas possible. Hein. » Genre, ils ont payé 3000 euros de formation, mais ils commencent leur job et ils se disent « Non, mais en fait, écoute, je peux pas voir ça. »
Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais
tant
arrivé.
Mieux. Tant mieux.
Avec moi, en tout cas, en général, je m'entends facilement avec les gens parce que je m'adapte un peu à tout le monde. Bon, je suis quelqu'un de très tolérante, très sociable et je m'intéresse à tout le monde, donc c'est pour ça que je m'entends facilement avec les gens. Au contraire, grâce aux réseaux sociaux, il y a des gens qui ont voulu faire le même métier que moi et qui se sont lancés dans les formations et tout ça et qui ont obtenu leur diplôme rien qu'en me suivant, et c'est fou.
Ça, c'est incroyable. Et donc, cette formation, justement,
ouais.
Ça dure combien de temps? Et c'est quoi comme... Faut avoir quoi comme compétences à la base, ou c'est quoi comme matière que tu vas apprendre?
Alors, c'est une formation diplômante qui dure à peu près 3 mois, qui coûte à peu près 3000 euros.
1000 euros le mois, c'est un budget. Plus cher que mon école de commerce.
Ouais, c'est un budget. Mais on va apprendre beaucoup de tout ce qui est législation, parce que ça, c'est le plus important dans le funéraire. Il y a des règles, il y a des lois et qu'il faut respecter. On va apprendre à préparer les obsèques, on va apprendre à recevoir des familles, on va apprendre tous les différents rites et rituels selon les religions. Parce que chaque religion a sa façon de procéder. Et ensuite, ben, on va apprendre tout ce qui est psychologie du deuil.
Psychologie du deuil, c'est quoi comme...
C'est l'accompagnement, c'est la compréhension du deuil, comment expliquer la mort aux enfants, comment prendre en charge des personnes qui viennent de perdre un être cher brutalement, notamment avec des accidents, des suicides. Voilà, on apprend à gérer les différents deuils aussi, parce que bon, voilà, dans le deuil, tout le monde est différent, donc tout le monde le vit différemment et on apprend justement à gérer un petit peu tout ça.
Et donc, pour un enfant, par exemple, c'est quoi les conseils que tu donnes
Ne rien leur cacher.
D'accord. Leur dire
Parce qu'ils ne sont
la
pas
vérité,
bêtes.
ne pas leur
Il faut leur
inventer
dire la
l'histoire du Père Noël.
vérité. Et si eux le demandent, il faut les inclure. Parce qu'ils ont besoin de faire leur deuil tout comme nous. Ils ont besoin de comprendre. Et par exemple, un petit garçon qui vient de perdre son papy, et s'il ressent le besoin d'aller voir son papy ou d'écrire une lettre, la glisser dans le cercueil ou lui faire un dessin ou autre, qu'il le fasse. Il ne faut pas l'en interdire, au contraire, parce qu'il va mal le vivre et il ne fera pas son deuil normalement. Voilà, il faut les inclure et il ne faut rien leur cacher. Vraiment, pour moi, enfin, voilà, le deuil de l'enfant, c'est comme un deuil d'adulte. Ils ont besoin d'être inclus, ils ont besoin de voir, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin qu'on ne leur cache rien, qu'on ne les prenne pas pour des débiles, surtout parce que, il faut pas croire, mais ils comprennent tout.
Donc là, je parle quand même pas mal de TikTok et Instagram depuis le début. Donc pour ceux qui pour ceux qui veulent savoir, donc tu as un compte TikTok et un compte Instagram. Ce que tu peux dire peut-être c'est ton prénom et ton nom de famille, c'est ça? Donc c'est comme ça sera écrit
C'est
sur
ça.
l'épisode.
Sur TikTok, c'est Sabrina Berenguer Sally. Voilà. Et sur Instagram, c'est Sabrina Sally. Voilà. C'est mon nom de jeune fille, en fait.
Et donc c'est TikTok, sur TikTok, donc pour ceux qui iront voir, j'imagine que vous allez tous regarder les TikTok. Tu racontes les dessous un peu du métier, des questions pratiques, des questions un peu moins pratiques. T'as lancé ça quand, ce TikTok? Tu l'as lancé en même temps que quand t'as commencé la profession ou je pense pas, non, je sais plus.
Non, j'ai commencé un petit peu plus tard. Ça va faire un an que je suis sur TikTok maintenant. En fait, un jour, j'ai décidé de me filmer en faisant le montage d'un cercueil. Et puis, j'ai fait un montage vidéo et je me suis dit, mais oh, mais ça sort bien, c'est rigolo, c'est sympa. On ne voit pas d'identité, c'est anonyme, on ne voit rien de trop choquant. Bon. Et donc, je l'ai montré à mes responsables, je leur ai dit, regardez la vidéo que j'ai faite. Ils ont trouvé ça super sympa. Et j'ai dit, bon, on ne pourrait pas la publier pour voir un petit peu. Et du coup, ben, j'ai publié cette vidéo et bam, ça a fait 1 300 000 vues, quoi.
Ah, c'est TikTok, là, c'est quand tu fais une bonne
Incroyable.
vidéo, tu sais pas comment, ça part au...
Incroyable. Et c'est de là que ben, j'ai commencé à recevoir des milliers de commentaires, des abonnements de tous les sens. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les gens, ils avaient besoin d'en savoir plus. Ils avaient besoin de découvrir ce métier. Ils avaient plein de questions. Et puis, du coup, ça m'a lancée, en fait. Je me suis dit, bon, ben, en fait, ils connaissent pas. Ils ont besoin de voir, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre. Et bien, je vais leur apporter ce qu'ils veulent, en fait.
Et c'est là que ça a commencé. Là, tu fais des vidéos tout le temps et ça marche plutôt bien. T'as quand même quoi, 50 000 abonnés sur
Ouais,
TikTok.
c'est ça.
Et c'est quoi la question ou les questions que les gens te posent le plus? C'est quoi la plus grande curiosité des gens qui te suivent?
Alors, les gens sont plutôt curieux de savoir comment je le vis au quotidien. Étonnamment, c'est la question qui ressort souvent. Est-ce que vous arrivez à dormir? Est-ce que vous voyez les défunts? Bah oui, quand même. Hein. Je travaille avec la mort. C'est mon métier. Est-ce que vous arrivez à dormir? C'est ça qui les intrigue le plus, en fait.
Bah,
C'est
c'est nos peurs
fou.
en fait. Et la peur
Ouais, c'est
principale,
ça.
c'est leur peur qui reflète en te posant la question, est-ce que toi, t'as pas ça?
Ouais, c'est ça. Donc c'est les questions qui ressortent le plus. Mais après, voilà, j'essaye de faire des vidéos respectueuses où on ne montre pas de défunt, on ne montre pas d'identité, surtout parce que je respecte la vie privée aussi des familles et des défunts. Voilà. J'essaie de faire ça ludiquement, le plus ludiquement possible, et avec beaucoup de bienveillance et de positivité. parce que du coup, ça change un petit peu l'image du funéraire. En général, quand on parle de funéraire ou pompe funèbre, c'est les gens, c'est des pompes à fric, c'est des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'empathie, qui sont glauques, étranges. Mais non, non, on n'est pas bizarre, quoi.
C'est une question qui est revenue là, parce que j'ai, à côté de moi, j'ai toutes les questions et on m'a dit, mais c'est pas glauque de faire ça ou c'est pas des gens glauques qui font ça?
Non.
Je pense, après, ça dépend ce que ça veut dire glauque aussi, je sais pas.
Et tu serais très étonnée de voir les gens qui travaillent dans ce milieu. Moi, des fois, j'ai des thanatopractrices qui viennent en talons aiguilles, trop bien habillées, vraiment des bombes, quoi, tu vois. Enfin, et des fois, tu as des mecs qui sont ultra, enfin, je sais pas, ultra beaux gosses, bien sportifs et tout, qui font ce métier aussi. Enfin, y a de tout. C'est pas que
des gens qui pleurent.
Enfin, quand
tristes,
je dis gothique, c'est la famille Adams, quoi, tu vois.
Ouais.
Non, non, c'est pas la famille Adams, quoi. Enfin, non, non. Le cliché, quoi.
Ouais. Mais ce que je retiens, moi, c'est que tu as changé de parcours pour te sentir utile.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on on pense à gothique, aux gens qui travaillent là-dedans, ou sombre, ou glauque. Mm. Mais toi, tu as parlé de. Bah, moi, je fais ça parce que ça a permis de retrouver du sens à ma vie, quelque part. Mm. De me sentir utile pour les gens que j'aide. Et c'est vrai que c'est exactement ça, tout ce que tu fais. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je pose et que je n'ai pas posée? Question piège, hein, il y a peut-être rien. Hein.
Non, pas forcément. J'ai encore mes deux autres anecdotes, mais...
Tu peux donner tes deux autres anecdotes, parce que ça me rend quand même curieux, là.
Du coup, alors... Ah oui, ouais, celle-là, oui. Ben, un jour, en fait, on m'appelle pour un décès. Et donc, c'était dans un EHPAD, une maison de retraite. Donc, j'y vais. Le certificat de décès avait été établi par le médecin, mais le médecin ne s'était pas déplacé pour constater le décès, chose qu'il n'est pas censé faire. Il est censé venir, il a fait par Internet, il a dit oh « oui, elle est décédée, ok, je vous fais le papier ». Mais normalement, il est censé venir constater le décès. Donc, en fait, on a fait le transport de corps et on l'a ramené à la chambre funéraire, mais en fait, elle était encore en vie.
Incroyable. Mais attends, elle dormait quand tu l'as ramenée?
Ah, mais on aurait dit qu'elle était morte, quoi.
Et elle s'est réveillée?
Et elle s'est réveillée.
Mais où? Dans le cercueil?
À la chambre funéraire.
Donc, dans un genre de... La chambre funéraire, c'est un genre de cercueil avec un petit coussin derrière.
Non, non, pas du tout. C'est une table de travail où elle allait avoir des soins de conservation et tout ça, quoi.
Au bout de combien de temps, tu l'as remarqué?
Oh, ça faisait quelques heures, ouais. Qu'on l'avait. Enfin, ils nous ont appelé, je ne sais plus, c'était vers 16h, on l'a récupérée vers 17h et vers 17h30, elle était déjà réveillée, quoi. Elle avait fait comme un arrêt cardiaque et.
Quand je réfléchis, ça me paraît complètement fou, là. Déjà, il y a quand même des médecins qui font par Zoom. Qui disent oh c'est bon t'inquiète ça me paraît complètement fou mais je me dis bon au vu de ta tête peut-être un médecin il voit pas sur le podcast mais au vu de ta tête j'ai l'impression que c'est possible il y a peut-être des médecins un peu mauvais mais après carrément vous la preniez en plus tu lui mets un drap tu peux pas la sortir comme ça la personne
ah non dans une housse mortuaire en fait en France c'est obligatoire
ouais c'est ça donc elle est dans une housse mortuaire elle se réveille sur une table. Ouais, je veux dire que c'est vrai parce que c'est complètement fou. Je veux dire, c'est trop fou pour être tellement de détails. T'as eu tellement de détails pour que ce soit faux. Je veux dire que c'est vrai.
Non, non, en fait, c'est faux.
Ah,
mais c'est arrivé.
c'est arrivé
pas à moi. D'ailleurs, comment préserve
ouais.
Parce que le choc, mais c'est eu arrivé que des médecins ne se déplacent pas pour constater des décès et qu'on prenne le risque de transporter un corps qui n'est pas forcément mort en fait. Et c'est eu arrivé pour certaines pompes funèbres de se retrouver avec des corps qui se réveillaient comme ça. Coucou, mais en fait, non, je ne suis pas mort. Hein. Ouais.
Oh, le choc pour les gens qui ont dû voir ça.
Exactement.
Même pour la personne
donc,
qui n'est pas
morte. Donc, l'anecdote est fausse. Mais c'est eu arrivé.
Waouh.
Pas moi, mais voilà.
Incroyable. Et donc, juste pour le médecin qui fait ça sur Zoom, là, c'est illégal.
Ah oui, non, mais ça, ils n'ont pas le droit.
Ouais, ça, c'est
Il
quand
faut
même
qu'ils se
illégal.
déplacent, qu'ils constatent le décès, ça fait partie de leur rôle, quoi.
Est-ce que c'est des médecins légistes ou c'est quoi, c'est des médecins...
Non,
C'est quoi comme...
médecin généraliste, médecin du SAMU, médecin généraliste,
Ok.
voilà.
Ok. Et la dernière anecdote, donc, bah, je mets qu'elle est fausse. Mais c'est quoi? Dis-moi. Non, qu'elle est... Non, qu'elle est vraie. C'est quoi? Ah non, attends.
Ah, pas forcément, hein.
Ah, tu peux me faire des pièges. Non, mais je
Ouais.
suis perdu en plus. Il y a eu vrai, faux, la faux. Normalement, elle est vraie. Vas-y, est-ce que tu peux me donner l'anecdote?
Ok. L'autre jour, j'ai fait une cérémonie. Donc, dans un cimetière, on a fait une cérémonie religieuse. Et ensuite, j'ai fait le recueillement au cimetière. Donc, j'ai lu des textes et tout ça adapté à la famille que j'avais reçue. C'était un papy. Et à un moment donné, je me suis écartée de la famille pour les laisser se recueillir. Et là, il y avait la petite fille qui était effondrée sur le cercueil de son grand-père. Elle devait avoir 30 ans, la nénette. Et elle est venue avec son mec, et son mec, au lieu d'aller la consoler, il est venu me draguer.
Incroyable.
Voilà,
Rate
quoi.
pas une
Il
occasion,
est
tu vois.
venu.
C'est vraiment.
Il est venu pendant que sa nénette pleurait sur le cercueil de son grand-père qui a été au bout de sa vie, machin et tout. Lui, il est venu, il m'a demandé mon numéro de téléphone et quand est-ce qu'on pouvait se voir, et si, et là, que j'étais très mignonne, que je lui plaisais énormément et tout ça. Voilà.
Bon, je pense que c'est vrai, mais la personne là, ça faut vraiment avoir du culot quand même. C'est, mais pas de cœur aussi.
Non,
Culot, pas de cœur.
c'est vrai, et c'était il y a très peu de temps, c'était il y a même pas une semaine, c'était jeudi après-midi que je suis rentrée chez moi le soir. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on a enterré papy et le respect aussi.
Oh,
C'est fou.
wow. Mais toi, t'as rien dit. Enfin, bien sûr que t'as dit non, etc. Mais t'as pas parlé à la petite fille ou quoi? Ou comment t'as géré ça?
J'étais gênée en fait, j'étais gênée, je suis partie.
Ah, ok, ouais, t'as juste dit, ouais.
Normalement. Désolée. Merci.
Incroyable comme réaction. C'est fou ça.
Mais je me suis dit, mais c'est fou en fait le culot quoi. Enfin,
Un culot, manque de
c'est
cœur, manque
surtout que c'est
d'empathie.
là c'est un manque de respect total quoi. Tu vois,
Après, peut-être
c'est
que ça se passait
terrible.
vraiment très mal dans leur couple. Mais
Ouais, mais
bon,
ça
il y
après
a quand même des
voilà
règles,
quoi. Je veux dire.
quoi.
Mais bon, il y a quand même des règles. Je veux dire, c'est l'enterrement de son grand-père avec qui elle était très proche. Un
Non,
minimum
non, c'est sûr.
d'humanité, quoi. Enfin, on va pas draguer la maître de cérémonie.
Wow.
C'est...
Incroyable. Et je pense en même temps, là, une autre question. Est-ce que tu as déjà eu des... En fait, déjà des haters un peu sur TikTok et tout qui te disent... Tu rigoles ou tu parles de ce sujet-là avec beaucoup trop de détente? Parce que
Non.
je me disais, c'est peut-être une réaction que je vais avoir au podcast, je ne sais pas, parce qu'on en parle quand même avec le sourire, on rigole, on donne des anecdotes. Je me dis, est-ce qu'il y a ce type de réaction? Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent mal en mode non, mais c'est irrespectueux?
Non, parce qu'en fait, dans mes vidéos, tout est anonyme. En fait, je respecte déjà les identités des défunts, contrairement à certains qui ne les respectent pas. Et puis, je respecte mes familles. Au final, c'est juste que voilà, j'essaie d'apporter quelque chose de plus positif et plus bienveillant, quoi. Je n'ai jamais eu de commentaires déplacés ou autres par rapport à tout ça, en tout cas. Parce que justement, les gens se rendent compte que j'aime mon métier, je le fais avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, et puis que ça se voit que je suis une passionnée, quoi. Et puis du coup, ben, les gens, ben, ils voient ce côté-là et ils ne voient pas le côté négatif parce qu'il n'y en a pas. Il
Non, c'est sûr,
n'y en a pas.
pour certains, la mort est tellement, ça fait tellement peur que
Ben oui,
il y a des
mais...
croyances liées à ça, donc je sais
C'est
pas, je
ça.
suis
Bon,
d'accord avec toi.
après, il y aura toujours des gens contents et d'autres non. Ça s'appelle la vie. Mais après, voilà, quoi, je veux dire, si... Enfin, non, moi, j'ai jamais vraiment eu de haters, comme tu dis, par rapport à ça.
Bon, tant mieux.
Honnêtement,
C'est une bonne chose. Bah, je pense
ouais.
qu'on a fait pas mal le tour. Je vais finir là par mes deux questions finales. La première question, c'est le conseil que tu te donnes à toi-même pour t'épanouir encore plus à l'avenir dans ta carrière et dans ta vie perso?
One life.
One life.
One life, parce qu'on n'a qu'une vie et je m'en rends compte depuis que je fais ce métier, surtout à quel point il est important d'en profiter. Et surtout, un truc que je veux m'interdire depuis des mois, c'est comme ça, hein, c'est de, si demain je pars, je ne veux plus avoir de regrets.
Comment ça se manifeste dans ta vie, ce one life où tu veux pas de regrets, je crois?
Disons que je m'autorise plus de liberté. Je m'autorise plus de liberté, je m'autorise à sortir plus, à faire des activités qui me faisaient envie depuis des années et que j'osais pas faire parce que si, parce que là. Je m'autorise plus à aller voir mes amis, aller à la rencontre de des gens. Je m'autorise plus à voyager, je m'autorise plus à, voilà, à m'aimer aussi, étonnamment. Et voilà, quoi, parce qu'on n'a qu'une vie et il faut en profiter, il faut oser et on n'a pas le temps de perdre du temps, en fait. On n'a pas le temps pour perdre du temps. On n'a pas le temps de se soucier de ce que les autres pourront penser de nous ou non. C'est notre vie, pas la leur. Donc, voilà.
En plus, on n'a pas le temps parce qu'on finit vite entre tes mains, finalement.
Là,
avant d'être entre tes mains. Et ça rejoint, j'imagine, la dernière question qui est quelles sont tes trois valeurs de vie?
Le respect, la générosité et la tolérance.
Respect, générosité, tolérance.
Tolérance.
Super, c'est les trois mots qui vont clôturer l'épisode.
Ok.
Merci beaucoup Sabrina, c'était vraiment rigolo, vraiment top. Je
Merci
pensais pas que j'allais
toi.
Autant rire sur un sujet comme ça.
Merci.
Et une belle découverte.
Super. Ça m'a fait plaisir, vraiment.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.